Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
C'est François Pinet aujourd'hui, désolé pour les amoureux de Jean-Christophe Drouet, on l'embrasse, salut à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport, votre émission incontournable du samedi et du dimanche matin en direct jusqu'à midi. Très heureux de vous accompagner sur la route des vacances, si vous en avez au travail, pour ceux qui bossent ce matin, bon courage à vous, journée exceptionnelle au MPSG sur RMC, donc des grandes gueules du sport exceptionnelles avec nos débats autour de ce choc de Ligue 1. Est-ce l'année ou jamais pour l'OM de faire tomber le PSG? Ce sera 11h. Dans quelques minutes, on va parler du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il joue déjà sa saison ce soir? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant dans les GG. Le bras de fer des grandes gueules du sport aujourd'hui sur Novak Djokovic. Il a fait l'impasse sur le tournoi de Bercy et sa saison est presque terminée. Il a tout gagné. Il est orphelin de Nadal, de Federer. Est-ce que Djokovic doit s'arrêter là? Les GG ont choisi leur camp. On en parle à 10h. Sans oublier vos rendez-vous habituels, le zapping des GG. Il y aura du ski, de la F1, la punchline signée par les journalistes espagnol, très sévère avec Kylian Mbappé après l'humiliation subie par le Real face au Barça. Et d'ailleurs, on ira à Madrid, ce sera à 10h30. Le 32-16, le hashtag RMC Live sur X, l'appli RMC Direct Studio pour nous rejoindre ce matin. Et ce matin, dans l'équipe des GG, une GG qui, comme OM PSG, est un classique qui essaye de rester à la mode, Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Ça fait bien longtemps que je ne suis plus à la mode, mon cher ami.
Ah, tu essayes quand même de rester dans le coup, non?
Non, je suis complètement à speed.
Une GG qui, comme...
Si tu voulais me comparer, je serais plutôt un Saint-Etienne-Nantes, tu vois, match des années 70.
C'est ça, c'est plus Saint-Etienne-Nantes, voilà, par exemple. Ça te va mieux.
C'est vrai que là, quand ils le disent, je vois le truc.
Ça correspond. Jaune et tout. Ouais.
Tiens, vous l'avez entendu.
À belle époque.
Une GG qui, comme OM PSG, en apparence, on a l'impression que c'est que de la haine, mais c'est pas que ça. Marie Martineau, salut Marie.
Qui est que de la haine? Moi, avec qui? Contre
avec moi
qui?
Bah,
par exemple, c'est un peu OM PSG avant l'heure.
Avec les deux. Ouais. Non.
Mais c'est que de l'amour.
Non, oui, oui, c'est
tout. On rassure tout le monde par rapport à hier.
On essaie de nous monter en épingle l'un contre l'autre depuis hier sur les réseaux sociaux.
Ah là, alors, et rien n'y fait? Rien d'y fait, cœur sur toi.
Ça, c'est magnifique. Voilà, une émission qui commence comme ça, ça va pas forcément se terminer pareil.
Ah non. Là, derrière, là, t'as le meilleur. Là, t'as le caviar. Derrière, t'auras les œufs de l'Olympe pendant 2 heures.
Une GG qui, comme OM PSG, a longtemps tout misé sur l'art, plus que sur le talent. Sarah Pitkowski est avec nous. Salut Sarah.
Salut à tous.
Tu pensais qu'en changeant de présentateur, ça allait
changer? Non,
c'est pas.
J'ai repris la même phrase, mais ça fonctionne bien avec OM PSG. Longtemps, ça a été des chocs, un peu difficiles.
Ouais, voilà. Mais et en même temps, t'as
beaucoup de talent, aujourd'hui. Hein.
Non, mais t'as tout juste, c'était vrai.
Est-ce que quand tu jouais, tu faisais comme toutes les autres ou pas? T'as des images là-dessus?
Moi, il faut aller sur Lina. C'est peut-être en moins de blanc. je pense un peu au troisième set, tu sais, sous 40 de chaleur,
c'est ça qu'on
en Australie peut-être.
C'est ça
mais
qu'on
non,
aime.
Mais c'est tout juste.
On aime
c'est
ça.
Plus hargneuse que talentueuse. Mais quoi qu'il arrive, il faut bien des qualités quelque part.
Exactement. Hein, voilà. Et puis une GG qui, comme OM PSG, nous a plus offert de spectacles en dehors que sur le terrain. Pascal Duprat est avec nous. Salut Pascal.
Bonjour François, bonjour les amis.
Salut Pascal.
Pascal me remplit dans l'art, quoi.
Mais écoute, j'ai tellement l'habitude. Oui,
François est toujours resté sur le parking. Lui, il est ni rentré sur le terrain, ni
garé
à côté.
C'est pour ça que je peux me permettre. Vous voyez,
tu
touches pas à
quand je jouais au foot, il n'était pas né. Quand je jouais au foot, il n'était pas né. C'est peut-être pour ça.
Ouais, je ne suis pas si jeune que ça, que j'en ai l'air. Hein,
en tout cas, plus jeune que moi.
En tout cas,
c'est
lui entraîné, Pascal. Ça, c'est vrai.
Merci.
J'ai des gros souvenirs.
tu voulais finir par un compliment, c'est ça,
oui,
François?
J'ai essayé. On est en direct aussi. On a nos directs dans les grandes gueules du sport avec le Grand Prix Moto. Ça se passe en Thaïlande. C'est Paul Lafitte qui est au commentaire pour RMC.
À la plage. Il y a la télé devant le truc, il y a les pieds en éventail, une bière à la main, ça c'est Paul Lafitte. Voilà.
Salut Paul.
On commente la moto.
Salut, mais comme Christophe Cessieux, je suis un petit peu has-been aussi. Hein,
ah bon.
Hein.
Ouais, c'est parti pour ce Grand Prix Moto.
Ouais, parti depuis 5 tours, c'est un Grand Prix complètement fou, puisque Pecco Bagnaia, qui avait fait la pole position, s'est fait dépasser au départ par Jorge Martin, le leader du championnat du monde, et ce même Jorge Martin qui a commis une faute au 3e tour, qui a permis à Bagnaia et à Marc Marquez de prendre les premières et le deuxième position. Martin est en 3e position, et puis on avait assisté à un superbe départ de Fabio Quartararo, 6e sur la grille de départ. Il était 4e et il s'est fait éjecter de la piste par Franco Morbidelli. Fidélis, qui veut dire qu'il n'y a plus qu'un seul Français en piste. Il s'agit de Juan Zarco, qui est en 14e position. Mais dans ce duel complètement fou, puisqu'on rappelle qu'il n'y a que 22 points d'écart entre Martin, leader du championnat du monde, et Bagnaia, si Bagnaia venait à s'imposer cet après-midi et que Martin terminait 3e, il n'y aurait plus que 13 points d'écart à deux courses de la fin de la saison. Ce qui veut dire que bien les dés ne seraient pas jetés donc entre Bagnaia et Jorge Martin. Donc suspense garanti ici sur ce circuit de Burinan. Avantage à Bagnaia devant Marquez et Jorge Martin à 18 tours, François, de l'arrivée de ce Grand Prix de Thaïlande.
Et on te retrouve un peu plus tard dans les GG. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de parler avec Marie Martineau d'un débat moto. Je vous en dis pas plus.
Qu'est-ce qu'il est bon ce Paul?
On verra ça un petit peu plus tard.
Allez. Débat moto.
Oui, pourquoi pas. Vous verrez. Ouais, ouais. Vous verrez. Ouais. Allez, tout de suite. Un grand philosophe disait : je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre. Eric Cantona. Eh oui.
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Qui a aussi bien joué dans cette manche que Jean-Luc Reichmann dans sa série Léo Mattei?
Mais il y a beaucoup de ballons perdus là par les Parisiens depuis le début du match.
Qui se sent comme un teckel dans un concours de lévrier?
Esta es una pregunta muy española, eh?
Qui ne trouverait pas de foin dans une botte de foin?
Pidina la frappe derrière!
Qui est plus bison que futé?
J'ai eu l'occasion de l'avoir comme coach.
Si vous êtes venu pour faire les plantes vertes, il fallait vous inscrire à Silence ça pousse.
Un coup j'accélère, un coup je ralentis, mais on ralentit beaucoup.
Et puis un match contre Mardes.
Qui pense que quelqu'un a vraiment inventé l'eau tiède?
If not, I don't care. I'm the manager.
Réfléchissez, si vous le pouvez, j'en doute. Votez et éliminez le maillon faible.
Dans le moindre détail, mais avec l'humilité suffisante.
Pas de maillon faible ici dans les grandes gueules du sport, mais une journée spéciale, vous le savez, au MPSG sur RMC, le match en direct dès 20h45, Jeannot Séguier, Flo Germain au Vélodrome, au commentaire, avant match dès 19h avec un Bartoli Time spécial en direct du Vélodrome, des invités toute la journée, Javier Pastore, José Anigo, dans Stephen Branch notamment à partir de 13h, Maeve Luterding, Benoît Chéroux également.
Attends,
Stephen Branch.
T'es allé trop vite.
Stephen Branch, non?
Hein?
C'est pas ça?
Non, mais. Elle écorche pas son nom, hein. Moi ça m'a valu nos deux années de mauvaises relations.
Stéphane Branch, on va appeler ça comme ça, que l'on embrasse. Le PSG qui reste sur un match nul frustrant en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Au total, ça fait une seule victoire sur les quatre dernières rencontres. On connaît l'importance d'un match face à l'OM quand on est le PSG. Perdre dans ce contexte au stade Vélodrome, ça serait sans doute plus que malvenu, d'où cette question. Les grandes gueules du sport. Le PSG joue-t-il déjà sa saison ce soir? Oui ou non? Sarah Pitkowski?
Absolument pas.
Christophe Cessieux?
Une partie.
Marie Martineau?
Bah, s'ils perdent, peut-être un petit peu quand même.
Ah, Pascal Duprat?
Non, pas le moins du monde.
Avant de vous entendre, on va accueillir Arthur Perrault qui suit le PSG pour RMC, qui est là en studio avec nous parce qu'il est interdit de séjour à Marseille. Salut, oui. Arthur.
Bonjour messieurs, bonjour à tous. C'est exactement ça.
C'est Arthur Legend.
Qu'est-ce que tu as?
Ah, c'est vrai en plus?
Non, du tout.
Vas-y, lance les rumeurs.
Tu as cru aussi, Christophe? Je sais pas. Non, mais j'aime bien aller à Marseille, c'est vrai. Hein.
Ouais. Très jolie ville, Marseille.
Mais bon, ouais, mais bon, tu dis tellement de mal de l'OM aussi que c'est sûr.
C'est peut-être ça, oui, selon toi.
Je suis le PSG pour.
Trop de belles choses du PSG.
Ou l'inverse.
Bon, désolé, je voulais pas te mettre mal à l'aise.
Non, pas du tout. Je suis très content d'aller à Marseille à chaque fois.
Voilà, c'est bien de te rattraper. Tu étais à la conférence de presse de Luis Enrique, oui, hier avant le match. Est-ce que tu sens un PSG serein, justement, avant d'affronter cet Olympique de Marseille?
D'abord, un Luis Enrique plus détendu, plus bavard avec les médias hier au campus PSG de Poissy. Problème, la dynamique parisienne n'est pas bonne. Un match nul décevant contre le PSV Eindhoven. Un manque d'expérience, on le rappelle. Une moyenne d'âge de 24 ans. Mais l'entraîneur espagnol reste très optimiste.
Este tipo de partidos por experiencia.
Je sais par expérience que sur ce type de match, tout ce que tu as fait avant a peu d'importance. Parce que c'est une rencontre sous haute tension, avec une rivalité incroyable. Chacun a son opinion, mais après avoir analysé notre match, je suis très satisfait. Et aussi après avoir vu la conférence de presse de l'entraîneur du PSV, qui dit qu'ils auraient mérité de perdre, cela veut dire que l'on a fait un très bon match. Nous allons encore nous améliorer, je suis quelqu'un de très optimiste.
Cela fait 13 ans que Marseille n'a plus battu Paris au stade Vélodrome en championnat. Le club phocéen est déterminé à mettre un terme à cette série noire. Luis Enrique appelle, lui, ses hommes à mieux contrôler leur motivation.
Les matchs à haute tension, c'est presque le plus simple. Tu n'auras pas de manque de motivation. Il faut faire attention à un excès de motivation. J'en tiens compte. Il faut 100% de motivation, mais pas 105. Il ne faut pas être dirigé par les émotions.
En cas de victoire ce soir, l'OM reviendrait à égalité de points avec le PSG au classement de la Ligue 1. De quoi plonger un peu plus le club parisien dans le doute. Merci beaucoup Arthur, tu restes avec nous. Tu vas arbitrer ce débat, je rappelle la question. Le PSG joue-t-il déjà sa saison ce soir? Alors Sarah, toi tu dis absolument pas.
Moi non, absolument pas. Bah, les chiffres parlent. La dernière victoire de Marseille face au PSG, c'était en Coupe de France. Mais en championnat, ça n'arrive plus depuis des années.
Justement.
Bah quoi,
bah perdre, ça
serait justement, pas
perdre.
Mais
perdre quoi? Le PSG, même en faisant des saisons moyennes, il termine premier du championnat à chaque fois. Donc ok, admettons qu'il fasse un match nul ou il perde, ça va changer quoi en fait? Déjà depuis le début de la saison, Luis Enrique, on vient de le dire, il fait absolument pas d'effort pour parler français. Deux, il fait jouer qui il veut. Il met qui il veut sur le banc, il n'y a personne qui lui dit rien, il balance qui veut en conférence de presse, c'est lui le président. Donc il y aurait peut-être une petite anicroche ce soir, ça ne remettrait absolument rien en cause. On sait que les objectifs du PSG, c'est cette Ligue des Champions. Et il ne considère pas l'OM comme un club de Ligue des Champions. Donc...
Donc c'est pas grave de perdre contre Marseille.
Mais d'accord, les chances qu'ils perdent, elles sont extrêmement minimes.
Ouais, bah ça,
mais
c'est autre chose.
Ah oui, bah non,
et
c'est
on verra,
autre chose.
Enfin, débat, c'est pas autre forcément
chose. Aujourd'hui, mais même, enfin, je veux dire les confrontations.
T'as regardé les matchs depuis le début de la saison quand
oui,
même.
Oui, j'ai regardé les matchs.
T'as vu comment jouait le PSG depuis le.
Enfin, mais en Ligue 1, ils sont très bien. Mais on parle de championnat.
Sarah, on est quand même.
Les matchs que joue le PSG ne sont pas des matchs de Ligue des Champions.
Classiques, les plus. Les plus équilibrés depuis des années. Ah, on verra ce que ça donne, évidemment.
Ils sont au même classement que l'année dernière et ils ont plus de points que l'année dernière.
Pourtant, ils sont déjà champions, tout va bien.
Mais ils sont déjà champions, il y a 99% de chances qu'ils soient champions.
Ah ouais, 99%.
Bah oui.
Ah ouais,
enfin, je veux dire, même un PSG est un moyen, même un PSG sans ses stars, aujourd'hui, en Ligue 1, ils sont bien au-dessus de tout le monde sur la longueur.
Ils sont pas au-dessus de Monaco.
Moi, je
parle pas de Marseille, mais je pense qu'ils sont pas.
Donc, tu vas dans mon sens.
Après 8 journées, Christophe. Oui, Monaco est au niveau de Paris Saint-Germain après 8 journées seulement. Non, la différence par rapport
En termes de niveau de jeu montré sur le terrain,
je suis pas d'accord avec toi,
Monaco montre de plus belles choses que le Paris Saint-Germain.
Je vais aller à contre-courant de ce qui se dit, et notamment ce que disent les journalistes au sujet Paris Saint-Germain.
Pro Luis Enrique, ça m'étonne pas.
Non, je suis pas pro Luis Enrique. Je dis simplement que le Paris Saint-Germain.
Pascal, il aime les journalistes.
Le Paris Saint-Germain, j'adore parce que je me suis rendu
il adore.
Non mais je me suis rendu compte que c'était un travail formidable. C'était un vrai métier. Voilà, c'était un vrai métier. Je pensais lorsque j'étais sur les bancs de touche, je pensais que
vous n'étiez pas un vrai métier.
Non, c'était pas juste du ressenti en fait. Ouais. Voilà. Mais non, c'est un vrai métier. Non, cela dit, la grande différence aujourd'hui, c'est que Marseille est redevenue à niveau.
C'est ça. C'est pas merci.
Ça, par contre, ça c'est quelque chose qui est sensible. Marseille est crédible aujourd'hui parce que Marseille a une meilleure équipe, parce qu'elle est plus équilibrée. Ça, c'est important. Aussi parce qu'elle a un entraîneur de renom et qui a des idées. Mais cela dit, le Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison, et tu as très bien fait de le souligner, Sarah, en championnat de France, ils sont invaincus. Donc à partir de là, en 8 matchs, ils ont gagné 6 fois. On ne peut pas dire qu'ils jouent leur saison.
Enfin,
Laissez-moi terminer mon argumentation. Là où Paris Saint-Germain, on les attend davantage, c'est en Ligue des Champions, où pour l'instant, ils sont poussifs. Mais seulement, et je dois dire que, et notamment le dernier match contre le PSV, est pas si mauvais que ça. Le problème de Paris Saint-Germain, c'est qu'il manque de buteurs. Ça, c'est une constante. Mmh. Et pour ce faire, j'attends avec impatience le retour de Gonzalo Ramos, parce qu'il peut pas jouer qu'un faux neuf comme ça et exister en Europe. En championnat de France, je pense que ça suffira. Même si Monaco et Marseille vont être des concurrents, je pense que ça suffira. L'entraîneur Luis Enrique, il a une idée en tête, et cette idée, il l'a développé ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Oui. Avec ces jeunes joueurs, on pourrait très bien voir le Paris Saint-Germain au niveau du Barça. On en parlera tout à l'heure, du Barça actuel, avec de jeunes joueurs qui commencent à éclore. Attention, ne misez pas trop sur un Paris Saint-Germain en déclin. Ce serait une erreur, Christophe.
Marie, tu sais, on a une petite pause, et comme ça, c'est encore mieux, parce que tu vas être la première à prendre la parole. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive?
Bah attends, je suis
c'est la présentation là sur MPSG.
Ouais, ouais, puis c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur.
Toi aussi, t'es éternueuse sur ta planche ou pas?
Bon, les amis, on va revenir en grande forme et avec le sourire dans quelques minutes. Bah oui, il y a quelques petites pauses dans les grandes gueules du sport. Promis, elle est courte celle-ci. Et on arrive dans un instant pour l'avis de Marie sur ce OM PSG et notamment sur ce Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il joue sa saison ce soir? Restez avec nous, on vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 9h28 sur RMC, les grandes gueules du sport. Ce matin, Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Christophe Cessieux et Arthur Perrault qui est là pour encadrer notre débat sur OM PSG. C'est ce soir, vous le savez, 20h45 en direct sur RMC. Le PSG joue-t-il déjà sa saison ce soir? Eh bien, justement, Marie, tu voulais nous dire que... Alors, tu n'étais pas tout à fait d'accord avec Sarah et Pascal. Pour eux, non, le PSG ne joue pas sa saison, mais tu voulais quand même nuancer.
Oui, non, mais je sais plus ce qu'ils ont dit du coup. Alors ça m'énerve. Non, je t'écoute.
C'était vachement intéressant.
T'as vu en fait cette analyse de dingue.
C'était très intéressant.
Peut-être que le terme Paris joue-t-il sa saison. Oui. On a bien compris qu'on est dans les GG.
Mais attends,
que c'est un petit peu.
Je précise quand même quelque chose. Luis Enrique, il dit à longueur de conférence de presse que la Ligue des Champions, et là j'ai Arthur qui va me contredire peut-être, que la Ligue des Champions n'est plus la priorité, n'est pas la priorité saison.
Voilà.
Donc ça rend la Ligue 1...
La priorité, c'est la construction de l'effectif. Hein.
Ça rend le championnat beaucoup plus important.
Okay. Et tu construis, mais tu gagnes rien.
Donc si je peux y aller ou je peux toujours pas y aller? Non, mais vous êtes insupportable. Vous n'êtes pas du tout discipliné ce matin. Donc, évidemment... que cette Ligue 1, elle est très importante et que quand ce match-là, tu ne l'as pas perdu depuis 2011, si je dis pas de saucisse,
ça lui
confère quand même un peu de pression sur les épaules de, comme tu l'as dit, une équipe qui est relativement jeune et qui a quand même besoin de prouver et de se prouver à elle-même qu'ils arrivent à proposer un jeu correct. Donc je dis attention, je dis juste ça, si vraiment ils venaient à perdre ce match, ce serait une explosion évidemment de joie pour les Marseillais et on sait à quel point ils sont
fervents.
Je pense que ce serait vraiment marquant,
à la 9e journée,
impactant. Oui, parce que
à la 9e
c'est
journée,
comme ça, c'est des rendez-vous,
ça ne se perd pas
non,
sur
mais
un match.
Tu vois, quand tu joues en club, tu n'as pas de championnat du monde, tu as des rendez-vous. Et celui-ci en est un, c'est un rendez-vous au sommet, parce que, et il l'a dit Pascal, je crois qu'il a assez raison parce qu'il connaît un peu le foot, parce que Marseille en ce moment est vraiment un petit peu est vraiment compétitif, a vraiment les capacités de faire quelque chose. Et donc, je crois que, effectivement, ça pourrait être le début d'une petite musique instillée comme ça, de dire « Ah, et si c'était possible de renverser le Paris Saint-Germain en Ligue 1, et si, enfin tu vois, et après ça donne des ailes aux autres, et enfin faisons bien attention quand même.
Tu sais, je pense que si c'était un PSG-OM, j'aurais eu une autre réflexion. Aujourd'hui, un OM-PSG.
Ah bon? C'est pas grave de perdre au Vélodrome, parce que c'est au Vélodrome.
Mais oui, c'est-à-dire que s'il y a une petite anicroche à la 9e journée, pour moi, ça n'a pas d'incidence sur le résultat final. Et quand on parle que il semblerait, pour essayer de se décharger de toute responsabilité, encore d'une catastrophe en Ligue des Champions, Luis Enrique nous vend la construction de l'équipe et d'un résultat d'abord en Ligue 1 avant la Ligue des Champions.
Oui, mais cela dit, il faut quand même qu'il passe le cut du championnat de Ligue des Champions.
Oui, ce nouveau,
il faut qu'il soit en 8e.
On est d'accord.
Parce que si jamais en face de Ligue, il trébuche,
il
à ce moment-là, ça serait vraiment un cataclysme.
Et que les trois autres clubs français se qualifient.
Là, ça serait un cataclysme.
Oui, on pourrait faire un débat là-dessus. Mais encore une fois, aujourd'hui, quand on a un objectif final, d'avoir des moments dans
l'objectif
sa saison.
L'objectif de la construction.
Non, un objectif final de gagner le championnat, d'avoir
éventuellement. Mais non, c'est
éventuellement
la construction. C'est que la construction.
Non, mais l'objectif final, c'est d'être champion de France. Arrête deux secondes, Christophe. D'avoir éventuellement une petite anicroche. Je ne vois pas comment ça peut avoir une incidence sur un résultat final.
Ça aura une incidence sur l'intérêt du championnat, tout simplement. Ouais. Si le PSG aujourd'hui venait à mordre la poussière à Marseille, ça aurait une vraie incidence sur le championnat. Et son suspense. Parce que imaginez l'inverse. Si le PSG bat Marseille, c'est comme.
Ce serait l'ordre établi.
Le Real Barcelone, hein, ça veut dire 6 points.
6 points
de retard pour Marseille, ouais. Autant vous dire que là, ça serait fini pour l'OM. Mmh.
pour ce qui est du titre et de l'ambition du titre, si jamais ils l'ont, mais on en parlera tout à l'heure. Donc encore une fois, non, c'est trop tôt dans la saison, et le Paris Saint-Germain totalise suffisamment de points, un des meilleurs passages du Paris Saint-Germain après 8 matchs.
Mais on est d'accord sur, on est d'accord sur la sémantique, on est d'accord sur le calcul. Très bien, évidemment, ils ne seront pas en danger après ce match s'ils l'ont perdu.
Au-delà des calculs,
mais ça va bien
hein,
au-delà des calculs. C'est l'OM, c'est l'Olympique de Marseille qui a recruté Rabiot il n'y a pas très longtemps, enfin, qui est ouais. en pleine ascension, qui construit quelque chose de nouveau, de différent. Tout le monde y croit. Enfin, vous voyez pas le truc.
En plus, c'est très bien monté. C'est monté en épingle. Vous faites tous très très bien votre boulot. Donc Paris Saint-Germain amoindri, Marseille exceptionnel. Bravo. J'espère que vous allez tous avoir une augmentation de vos patrons. Bravo. C'est magnifique. Mais oui. Paris Saint-Germain des gros nullards et Marseille extraordinaire. Mais voilà.
Allez.
Et Luis Enrique une pince à un mec qui a un ego surdimensionné. Allez-y, balancez.
Avant de retrouver Simon au 32-16, Pascal, quand même, Arthur, il y avait des doutes autour de Luis Enrique. Alors, si on a dit Luis Enrique, tu l'as dit, Sarah, a priori, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand même, il y a des doutes.
Il y a quand même des doutes
depuis ces dernières semaines sur sa façon de jouer, sa façon de faire jouer les joueurs, etc. Est-ce qu'une défaite contre Marseille, ça pourrait aussi quand même remettre un petit peu en cause ce pouvoir?
Les doutes se sont accentués quand il y a eu la fameuse mise à l'écart d'Ousmane Dembélé avant le match face à Arsenal. Le jour même du match face à Arsenal, on se rappelle, il n'avait pas été retenu dans le groupe à cause de retards successifs. Bon, on n'a pas eu finalement le fin mot de cette histoire-là, mais on a eu la preuve que Enrique était le vrai patron de cette équipe. Et que, quoi qu'il arrive, il serait soutenu, en fait. Alors oui, il y a la construction de cette équipe qui est toujours en cours, qu'il nous rabâche, qu'il nous répète en conférence de presse. Mais en fait, moi, je me souviens de la défaite en Coupe de France la saison dernière, on en a parlé. Derrière, il ne s'est rien passé. On nous a redit la semaine suivante que il y avait encore des progrès à faire. C'est ce qu'il a dit hier en conférence de presse. Que l'équipe est jeune, c'est ce qu'il a redit hier en conférence de presse. Et qu'il faut lui laisser du temps. À Barcelone, il a eu du temps. C'est le même temps qu'on est en train de lui donner à Paris parce qu'il vient de prolonger. Ça va bientôt être officiel. Et en attendant, voilà, les contre-performances, même dans des chocs, ça ne changera rien.
On s'en fiche. Bon. Nasser s'en fiche de perdre, de pas se qualifier pour la Ligue des Champions, de rien gagner pendant 2 ans.
Mais c'est comme ça qu'on construit.
Il a une carte qui lui permet en fait de passer entre toutes les
groupes. Sincèrement, oui.
Le PSG a bien changé, les Qataris.
Mais
tant mieux, Romain, si on apprend de ses erreurs, peut-être qu'ils ont viré des entraîneurs.
C'est sa grande chance, il a du temps. Il a du temps, donc le PSG a pris les vertus de la patience.
Le seul truc, il a du temps, mais il a une espèce d'immunité. Luis Enriquisme qui est en train de se monter un peu partout.
Mais il s'en fiche, hein.
Mais il s'en fiche.
On
en a vu d'autres qui s'en fichaient et qui se sont désirés.
Oui, mais il a un peu
de temps. Mais quand tu t'en fiches,
t'es protégé. Oui, mais t'es protégé jusqu'à un certain moment.
Mais il a un vrai totem d'immunité. Le geste fort est de le reconduire. Enfin, je veux dire, tu reconduis un joueur parce que tu sais que tu vas le vendre, enfin, quand il arrive en l'occurrence, et là, tu reconduis un entraîneur.
Oui, il n'y a pas encore de gronde, mais on sait que s'il y a une gronde qui commence à monter,
ouais,
il sera
plus cher.
Sera sur la sellette comme tous les autres.
Mais de le reconduire déjà aussitôt et de le virer dans 6 mois ou dans un an,
ça
c'est
d'accord. Mais depuis quand Paris Saint-Germain, ils en ont quelque chose à faire de ça, leur coûte cher.
Ils font 55 millions et
Kylian Mbappé.
Ils font 55
millions à Kylian. Mais ça, c'est de l'ego.
C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, sans doute. Simon est avec nous au 32-16. Salut Simon.
Salut à tous, comment ça va?
Ça va, Simon? Oui, supporter marseillais, je précise. Tu es à Marseille actuellement.
Je suis porté à Marseille, mais je suis à Pau dans le 64.
J'ai vu une déclaration d'un supporter marseillais exceptionnel qui a dit: moi, je serai de Zerbi, je ne mettrai pas de gardien dans les cages de l'OM parce qu'en face, il y a Dembélé.
C'est Mohamed Elie. C'est Mohamed Elie, la fleur
sur la gazette.
Alors, Simon, on parlera de l'OM à 11h, bien sûr, mais tu peux parler du Paris Saint-Germain, même en tant que supporter de Marseille. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à notre débat sur.
Alors, déjà avant de commencer, je fais une petite dédicace à ma chérie Loulou qui m'écoute et à mes belles filles Elena et Lucille. Je leur fais de gros bisous.
Bisous, voilà,
c'est la petite parenthèse.
On les embrasse.
voilà. Après, moi, je voulais dire, j'ai écouté vos arguments. Sarah qui dit à 99% le PSG. Pascal, voilà.
Elle connaît rien en foot, hein, Sarah. Non, faut savoir quand même.
C'est plus le tennis. C'est plus
le tennis. Simon.
Mais moi, ce que je voudrais dire aux supporters parisiens, et voilà, moi, je suis supporter marseillais, j'aime mon club, etc. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que le PSG, malgré tout, d'année en année, est quand même un petit peu en train de s'affaiblir. On voit que l'écart en Ligue 1, c'est pas le même qu'avant. Il y a des clubs bah, comme nous, Marseille, voilà, on est en train de, quand même, je pense, de se renforcer. Alors, par rapport au match de demain, hein, je ne vais pas faire le fanfaron parce que chaque année on y croit et chaque année on prend une toise. Donc on verra demain. Mais il y a des équipes aussi comme Lille qui sont en train de faire une super saison. Il y a une équipe comme Monaco qui, pour moi, cette année, est largement, pour l'instant, au niveau du jeu, au-dessus du PSG. Avec des garanties, autres. On voit Paris. Paris demain, excusez-moi, mais Dembélé, à part tuer des pigeons, il fait rien d'autre. Donnarumma dans les buts, excusez-moi, mais moi, depuis le début, je dis que c'est un poids pour le PSG. Au début, ils avaient Navas, et je sais pas pourquoi ils sont allés le virer. Voilà, bon, ils ont des joueurs portugais, ben voilà, Vitinha, Neves, ça c'est des monstres, il y a rien à dire. Mais je suis désolé, l'écart en Ligue 1 maintenant, c'est plus le même qu'avant, mais pas du tout. Il y a que 3 points d'écart entre nous. Il y a Lille qui ont 17 points, Marseille en a 17 points, Paris ils ont 20 points. Il y a que 3 points d'écart.
Et c'est pour ça qu'on fait ce débat, Simon, effectivement. Ouais. Simon, tu vas rester avec nous parce qu'on a Cyril, supporter du PSG. Voilà, OM-PSG, c'est dès ce matin dans les grandes gueules du sport. Cyril, bonjour.
Bonjour.
Alors, salut Cyril. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ce qu'a dit Simon, évidemment,
PSG moins dominant. Significatif, l'année dernière, ils n'ont pas perdu en Coupe de France.
Oui.
C'était sous Galtier.
Ce que tu as dit, Arthur, donc, effectivement.
Voilà. Okay, voilà. Donc, petite chose. 8e journée, 24 points possibles à prendre. 20 points de prix, meilleur ratio au niveau but.
Ouais.
Le jeu n'est pas bon. On domine tous les matchs.
Tu le conçois quand même que le jeu n'est pas très bon.
Non, je dis que le jeu n'est pas bon.
Ah oui, tu trouves que le jeu est bien, toi.
Que du gars, Daniel, qui n'aime pas Luis Enrique. Je le conçois, ils ont le droit d'avoir leur avis. Pardon. Maintenant, il faut regarder un peu les statistiques. Paris, s'il venait à perdre, ça me ferait chier. Mais ça me ferait chier que moi, les supporters. Sur le classement au PSG... Il serait à 20 points. Bon, bah, malheureusement, ils auraient 3 points de retard sur probablement Monaco qui va gagner aujourd'hui. Mais là.
Ils n'ont pas gagné encore.
Oui, ouais, on est quand même loin des grandes ambitions du Paris Saint-Germain.
Encore une fois, Cyril, tu parles que de chiffres et tu as raison, c'est important le classement. Mais perdre contre Marseille, toi, Cyril, c'est pas grave.
Moi, ça me fait chier. Bah oui, j'imagine que le supporter marseillais, ça le fait chier de perdre contre Paris.
Ça l'embête,
c'est logique. Excusez-moi, ça l'embête. C'est logique. Maintenant. Sur la physionomie du championnat, on va relativiser un peu quand même. Hein. On est en octobre.
Et sur la physionomie des 10 dernières années, on ne relativise pas. Le fait que Marseille pourrait éventuellement ce soir faire le truc qu'ils n'ont pas réussi
mais
à faire depuis 10 ans.
Ouais, tous les ans, c'est comme ça.
Vous parlez
Marie, c'est toutes les années comme ça.
Ouais, là, c'est quand même un petit peu plus... Alors, oui,
mais toutes les années, l'OM rêve de battre Paris Saint-Germain.
On est retour dans la saison pour avoir un avis définitif. Et évidemment,
huit
journées, c'est comme tu disais. Alors, qui va être champion? Évidemment, on n'en sait rien. On joue à Madame Irma, à savoir si ça peut avoir des conséquences. Il n'empêche que Marseille, moi, me semble en mesure, et Monaco me semble en mesure cette année d'inquiéter un peu plus le Paris Saint-Germain que les années précédentes.
Et c'est tant mieux pour le championnat.
Et c'est tant mieux pour le championnat parce qu'on s'ennuie dans ce championnat quand tu sais que à 10 ou 12 journées de la fin, tu connais le nom du champion. Moi, je rêve, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Pascal, je rêve d'une vraie concurrence entre au moins 3 grands clubs.
Et quand ça je voudrait vois dire ça, que...
eh bien, moi, j'ai la banane. Vous nous dites, ben non, le PSG va écraser encore. Eh bien, là, vous me déprimez. Moi, j'ai plus envie de regarder les matchs quand je vous entends le matin. Donc, ce soir, je vais regarder Toulouse, Toulon, comme ça, au moins, vous m'emmerdez pas avec votre PSG.
En fait, on décrit tellement le championnat de France. On décrit tellement le championnat de France, mais aujourd'hui, il y a un nivellement vers le haut. Monaco est compétitif, Lille est compétitif, même Brest, vous regardez ce qu'ils font en Champions League. Donc le championnat s'améliore, quoi qu'on en dise. Et le Paris Saint-Germain aujourd'hui, malgré tout ce que vous pouvez dire, tous ceux qui pensent que le Paris Saint-Germain est en déclin, le Paris Saint-Germain accomplit un début de saison où tant par le jeu que par les points, les buts marqués, les buts concédés, ils sont devant. Alors, point barre.
On remercie Simon et Cyril d'être passés. Bon match à vous, les amis, ce soir. Hein, évidemment, 20h45, on aura l'occasion de reparler de l'Olympique de Marseille. Ça sera 11h. Merci Arthur d'être passé ce matin. Bonne journée à toi. Je vous rappelle aussi...
Toulouse-Toulon ce soir, non?
Non, le classique quand même. Dans les grandes gueules du sport, on vous offre un magnifique cadeau. Vous allez remporter aujourd'hui Et si vous êtes à l'écoute, un séjour d'une semaine au domaine skiable des Cibelles, au cœur des Alpes, avec Goélia, résidence et club de vacances. Séjour pour 4 personnes, forfait inclus. C'est le 4e plus grand domaine skiable de France.
Avec comme...
pour tous les niveaux.
Comme guide, avec plaisir.
Voilà, ça c'est à la baguette. Ça.
C'est la Maurienne, c'est juste derrière la Tarentaise. Ouais, mais super la Maurienne, magnifique. Non, très beau domaine les Cibelles. Alors ça c'était dans les années 70, mais maintenant c'est fini.
Vous m'avez raconté les blagues, je ne me rappelle plus. Mais
j'explique comment on gagne quand même, les amis.
Pas tiré à la pub.
Pour remporter ce séjour aux Cibelles, vous envoyez dès maintenant ski au 7-32-16. Ski au 7-32-16. Allez-y, c'est un magnifique séjour. Bonne chance à vous. Dans un instant, le zapping des GG. Tiens, on va aller du côté du ski. On va continuer de parler de ski puisqu'à Zolden, il y a Cyprien Sarrazin qui ouvre sa saison, le français, après sa magnifique année dernière. On revient dans un instant sur RMC dans les Grandes Gueules du Sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
9h46 sur RMC, les Grandes Gueules du Sport, avec Sarah Pitkowski, Marie Martineau, Pascal Duprat, Christophe Cessieux en pleine forme ce matin. Merci aussi à ceux qui nous écoutent en podcast, toujours de plus en plus nombreux à 10h. Le bras de fer des Grandes Gueules du Sport avec Novak Djokovic sur le grill, qui va jouer ses derniers matchs sans doute cette saison. Mais pourquoi faire, lui qui a déjà tout gagné? Est-ce qu'il doit s'arrêter là? C'est la question qu'on vous pose et qu'on posera à nos Grandes Gueules du Sport à 10h. Donc, mais d'abord, notre direct, la moto, c'est terminé. Paul Lafitte, le Grand Prix de Thaïlande.
Oui, avec la victoire de Pecco Bagnaia, l'auteur de la pole position, qui s'impose pour la 9e fois de la saison devant Jorge Martin et Pedro Acosta, puisque Marc Marquez avait chuté au 15e tour. Et il relance encore une fois le championnat du monde puisqu'il n'a plus que 17 points de retard. Il restera 2 grands prix à disputer. Le prochain, ce sera dans 8 jours en Malaisie, pour un final qui sera vraisemblablement le théâtre d'une magnifique bagarre. Ce sera à Valence en Espagne. Mais là, Pecco Bagnaia a encore une fois repris des points à Jorge Martin. Et puis on notera la très très belle 8e place de Johan Zarco, qui s'était élancé 12e sur cette grille de départ. Et puis rappelons que Fabio Quartararo, qui était 4e, avait lui chuté après être entré en collision avec Franco Morbidelli. La 9e victoire donc de Pecco Bagnaia, la 27e de sa carrière en MotoGP. Il n'a plus que 17 points de retard sur le leader Jorge Martin. Rendez-vous messieurs, ce sera en Malaisie la semaine prochaine, et ce sera bien sûr à suivre sur RMC.
Messieurs dames,
voilà. Merci beaucoup Paul.
Bisous Paul.
RMC. Le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Alors vous connaissez le principe du zapping par cœur, je vous donne des actus de la semaine, ça vous plaît, vous pouvez parler, vous vous en foutez, vous passez votre tour. On va parler d'une actu qui va arriver là, saison de la confirmation qui débute ce matin à Zolden pour Cyprien Sarrazin, le français. C'est du ski, vous l'avez compris, on s'en fout pas. Pascal Duprat.
Moi je m'en fous pas.
Marie Martineau.
Non plus.
Christophe Cessieux.
Non plus.
Sarah Pitkowski.
Je passe mon tour.
Le français qui a vécu une saison dernière magnifique avec notamment les victoires marquantes en descente à Kitzbühel. L'année de la confirmation donc, c'est dès ce matin à Zolden. Arnaud Souk est avec nous, il va commenter l'événement. Salut Arnaud.
Heureusement que vous ne m'avez pas fait venir pour rien, t'imagines si tout le monde dit je m'en fous.
Ah ouais.
Moi je m'en fous pas, mais tu
serais pas venu pour rien. C'est dans quelques minutes en plus, le grand départ pour Sarrazin, mais pas seulement. Il y a un plateau de
alors
dingue,
écoute, on a une grille étonnamment internationale cette année. Parce que, bon, évidemment, l'immense star du ski et du slalom géant qui a gagné 9 des 10 courses qui se sont déroulées l'an passé en slalom géant, Marco Odermatt, va lui s'élancer avec le dossard numéro 1. Il y a fort à parier qu'il va encore être ultra dominateur cette année. Ses principaux adversaires, on peut penser au Suisse Loïc Meillard, on peut penser à Henrik Kristoffersen. Du côté des Français, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. On en parlera avec Sarrazin dans quelques instants. Mais je te disais, grille particulièrement internationale, d'abord parce que Marcel Hirscher, Marcel Hirscher fait son retour. Il va partir avec le dossard 34 et il n'aura plus le drapeau autrichien sur son dos, mais le drapeau néerlandais, puisqu'il a pris la nationalité néerlandaise.
Le dossard 34, je crois qu'il allait partir avec le 31.
Non, parce qu'il y a d'autres skieurs qui sont prioritaires, qui vont partir, notamment Cyprien Sarrazin, qui partira avec le dossard 32. Il y aura également Linus Strasser, l'allemand, qui va s'élancer avec le dossard 31. Bref, ce sont des skieurs prioritaires quand même sur Marcel Hirscher dans les règles. Mais il va avoir le 234. Et juste, je termine avec le cri international, parce que Lucas Pinheiro Braten fait son retour, lui qu'on connaissait norvégien, mais qui a sa maman brésilienne, qui est partie faire de la mode un petit peu, parce que c'est un garçon tout à fait étonnant dans le monde du ski, qui est passionné de mode. Et donc il en avait un petit peu marre de ce monde un petit peu fermé du ski. Il est parti au Brésil faire quelques défilés et il revient avec le drapeau brésilien sur le dos. C'est magnifique.
Première manche du géant donc à 10h, on va suivre ça. Marie, évidemment, Cyprien Sarrazin, est-ce que c'est moi je voulais en parler parce que c'est difficile peut-être après une saison comme il a fait de confirmer.
Non, je crois pas. Je crois qu'il est, il fait partie de ces garçons qui se sont révélés, qui ont trouvé le truc. Et je vois pas pourquoi il aurait perdu le mojo. Il est super bien entouré. Il a un staff de fou en équipe de France. Ils ont une belle équipe. Tu vois, il est pas tout seul. Enfin, même si on le dit souvent, le ski c'est un sport individuel que tu pratiques en équipe. Et cette équipe de France masculine, elle va bien. C'est cool. Il y a des belles choses en perspective. Il y a Cortina dans l'année prochaine. On est en année pré-olympique. Je vois vraiment pas d'ombre au tableau. Donc
D'autant qu'il n'est pas sorti de nulle part, hein. On le rappelle l'an passé.
Oui, effectivement.
Il gagne le niveau décembre sympathique, mais il avait déjà gagné en Coupe du Monde. Enfin, on savait que c'était un garçon très talentueux
du grand public.
Oui, mais dans le monde du ski, tout le monde savait très bien le talent dont il est pétri.
Christophe.
Après, c'est pas en somme géant qu'on va l'attendre prioritairement. Il faudra attendre les épreuves de vitesse.
Même si c'est sa discipline.
Je sais pas ses meilleurs résultats en géant l'année dernière.
Il n'a pas beaucoup couru de géant l'an passé. Enfin non, d'ailleurs, je crois qu'il n'en a pas couru du tout.
Ouais, mais il a déjà performé en géant.
Il a gagné le deuxième Coupe du Monde, qui a gagné du géant parallèle.
Mais non, moi j'ai hâte de le voir en descente. J'ai surtout hâte qu'il y ait des descentes et que surtout il puisse livrer bataille à Odermatt jusqu'au bout de la saison. L'année dernière, il y a eu cette frustration terrible. C'est-à-dire qu'il était revenu à quelques points du Suisse et malheureusement, la dernière descente, comme beaucoup, a été annulée. Et donc, du coup, il a vu le petit globe lui passer sous le nez. Et bon, voilà, c'est des occasions qui ne se présentent pas tous les jours. Donc, en espérant que cette année, la neige soit au rendez-vous et qu'il puisse nous montrer ce dont il est capable et qu'il tape un peu ce Suisse, quoi.
À quelle heure elle est la première manche ?
10h. 10h, on suivra ça, bien sûr, sur les grandes gueules du sport. Donc, c'est Arnaud Souk qui va nous commenter tout ça dans quelques instants. Merci Arnaud.
Salut.
Et Cyprien Sarrazin, invité de Stephen Brunch, je l'ai bien dit là.
Yes.
La semaine prochaine. 13h, 15h, il sera là, ici, dans ce studio. Cyprien Sarrazin, il viendra nous voir sur RMC. Un nouveau duel attendu entre Verstappen et Norris à Mexico. Les deux hommes qui sont tout proches sur la ligne de départ. C'est ce soir, 21h. On s'en fout pas. Marie Martineau.
Je m'en fous pas.
Christophe Cessieux.
Ouais, j'ai hâte de voir ça, ouais.
Sarah Pitkowski.
Tu passes mon tour.
Pascal Dupraz.
Non, je m'en fous pas.
La pole pour Carlos Sainz sur Ferrari. Derrière, c'est Verstappen, juste devant Lando Norris, donc son dauphin au classement. Et on se rappelle que la semaine dernière aux États-Unis, il y a les commissaires de course qui ont eu un impact important sur le résultat final, avec cette fameuse pénalité de 5 secondes sur Norris après un dépassement donc jugé hors illicite sur Verstappen. Il était sorti de la piste. Le règlement qui est venu au secours du champion du monde, et ça a fait pas mal de bruit. Tu t'en fous pas, Pascal ?
Non, je m'en fous pas parce qu'il y a ce duel qui est vraiment homérique, Verstappen-Lando Norris, mais il y a aussi les Ferrari pour arbitrer parce que les Ferrari.
Oui, Charles Leclerc sera quatrième, ouais.
Elles sont performantes. Ouais, donc non, en fait, moi je redis toujours la même chose, mais ce championnat, il est intéressant parce qu'il y a de la compétitivité, parce qu'il y a de l'enjeu et aussi parce que c'est pas si facile que ça, comme on aurait pu le penser en début de saison. On croyait, comme d'habitude, Verstappen allait tout écraser. Donc non, c'est un championnat intéressant, indécis, et j'ai hâte de voir cette course ce soir, mais ça va être difficile en replay peut-être.
Bah oui, évidemment, il y a de la concurrence, mais sinon tu écoutes RMC.
Il y a de la concurrence.
Et Jean-Luc Roy sera au commentaire ce soir à partir de 21h.
Alors voilà, RMC dans le casque.
Voilà, exactement. Marie ?
Oui, bah, l'occasion de parler de Formule 1 et de parler de la sortie de Tsunoda qui s'est plaint, et je crois à juste titre, qu'on essaye en fait de faire de ces pilotes des intelligences artificielles.
Voilà, ça, ils parlent de machines,
peut-être que tu as la
sortie. J'ai l'impression qu'ils attendent de nous que nous conduisions comme une machine, comme l'intelligence artificielle, que nous essayons de suivre toutes les règles de conduite. Au final, nous faisons de la course automobile, c'est pour ça que les gens gardent. Et s'ils enlèvent la passion, ce sera juste un combat d'intelligence artificielle.
Voilà, ouais.
Ils regrettent toutes ces règles. À ces règlements.
Mais je le comprends, je trouve ça chouette qu'ils le disent, et je crois que la limite est ténue entre imposer des règles pour qu'il y ait quand même un certain fair play et une certaine tenue sur le circuit, que ce soit pas n'importe quoi, parce qu'on sait que le moindre dérapage peut quand même avoir des conséquences dramatiques sur le matériel ou sur la vie de ces garçons-là. Et en même temps, effectivement, j'ai l'impression qu'on est en train de les mettre dans un espèce de cadre où les mecs deviennent des machines, justement. Il y a qu'à voir leur volant, il y a qu'à voir tous les détails qu'ils sont obligés de prendre en considération. En plus de piloter pour faire des retours à leurs ingénieurs en live et tout. Enfin, et je crois qu'on ne se rend absolument pas compte de la complexité que ça devient d'être ces pilotes-là. Et je trouve ça chouette qu'un mec comme Tsunoda puisse le dire.
Ouais.
C'est pas prévu.
Parce que sur le débat, oui, j'avais
c'est
des choses à dire.
C'est pour ça qu'on en parle, d'ailleurs.
Exactement.
C'est pour ça que je voulais vous entendre, Christophe, mais tu ne veux plus rien rajouter là.
Non.
Je peux rajouter quelque chose ?
Oui, non, t'as pas le droit. Tiens, une petite info de la nuit. Marvin O'Connor qui règle ses comptes avec son ancien coach Christophe Furios. C'est du rugby, vous l'avez compris. On s'en fout pas. Pascal Duprat.
Moi, je m'en fous pas. Christophe, parce que ce gamin, il est...
Non, mais je pense que maintenant, il faudrait faire un alcotest à chaque rugbyman.
Attends,
qui
on va
s'exprime.
En parler. On va expliquer. Marvin.
Non, je m'en fous pas.
J'ai pas suivi.
Ah, bah justement, je t'explique. Minuit 21, hier, tweet de Marvin O'Connor. Donc, c'est un franco-australien. Qui a pris sa retraite à la saison dernière. Il n'a pas joué avec Clermont sous les ordres de Christophe Furios.
Christophe Furios est arrivé et il ne lui a pas fait disputer.
Et en gros, le tweet, je vais vous le lire parce que c'est assez fou. Après donc, la défaite de Clermont face au Stade français, il détruit Christophe Furios véritablement et il explique, alors je vais le retrouver ce tweet, excusez-moi. Il dit « Belle perf mon Christophe, 450 points encaissés à l'extérieur et tu re-signes, t'es un génie, t'as l'air de vraiment embarquer tout le monde, Einstein, il n'y en a pas un seul de tes super soldats qui peut te piffrer ». Et il finit par « trou de balle ». Je m'excuse, mais c'est ce qui est écrit dans le tweet.
En français.
Oui, il est français.
En fait, je voulais simplement dire, je connais les deux. Ce gamin, il est né comme moi, Annemasse. Je connais très bien son papa.
Ah oui, d'accord.
Et je peux vous dire qu'il l'a mauvaise.
Ah bah là, oui, on a compris qu'il l'avait mauvaise.
De maman au Savoyarde et de père australien. Voilà, donc
son papa avec qui
j'ai bossé aux Nations Unies avec lui, son père. Et je peux vous dire que le gamin, oui, il l'a mauvaise parce qu'il n'a pas joué une seule minute. Mais on ne connaît pas le contexte. Donc même si c'est un gamin que je considère, qui est pourtant bien élevé, bon, et là il s'est lâché parce qu'il y a certainement la frustration, mais on ne connaît pas le contexte parce que Christophe Furios, ce n'est pas un peintre en termes de management. Ouais. Donc
Ça t'est déjà arrivé, Pascal. Si tu prends une déclaration comme ça d'un ancien joueur à toi, comment tu prends le truc?
Mais ça m'est déjà arrivé. Je trouve que c'est de la lâcheté parce que rares ont été les joueurs qui m'ont taillé, mais ceux qui m'ont taillé m'ont jamais taillé de face. C'est bizarre, c'est toujours par voie de presse.
Mais qui dit qu'il lui a pas dit
Je sais pas, justement, on connaît pas le contexte exact. Ouais. Toujours est-il que ça fait pas du bien au sport.
Ouais.
Voilà, papa John, je vais l'appeler après l'émission, mais je suis sûr que son père, il est pas d'accord avec son gamin, parce que ce gamin est très très bien élevé.
Effectivement. Bon, voilà, je voulais vous évoquer effectivement ce tweet de la nuit, c'était cette nuit.
Un autre pan des dérives potentielles.
Je pense qu'il était.
Puis derrière, il a mis une énorme tarte à sa compagne.
Non, mais toi, tu t'enfonces. T'enfonces.
Non, mais c'est pas. C'est attention, hein. Non, mais c'est sérieux là, peut-être qu'il était vraiment alcoolisé pour faire ce truc là.
De quoi ?
Marvin O'Connor.
Oui.
Bah voilà,
il était alcoolisé quand il a dit ça.
Non, mais voilà.
Mais qu'est-ce que vous en savez, on n'en sait rien. C'est pour ça que j'ironise, parce que c'est des supputations qui n'ont pas lieu d'être. Un mec qui balance. Bah peut-être qu'il l'était. Donc maintenant, un mec qui dit quelque chose, c'est soit qu'il est bourré, soit que c'est un.
Pascal Duprat va enquêter, Christophe.
Oui, je vais enquêter, tranquille.
C'est dingue quoi.
Bah parce qu'à minuit 21, tweeter ça, bon, voilà, c'est tout.
D'accord. Bon.
Allez, on revient dans un instant, Christophe. Le bras de fer des grandes gueules du sport avec Novak Djokovic au programme. Est-ce qu'il doit s'arrêter là? Il a tout gagné, il n'y a plus Nadal, il n'y a plus d'intérêt. Hein, nous, en tout cas, on ne s'arrête pas. On revient tout de suite sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.